Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Benoît XVI crée 6 nouveaux cardinaux, un consistoire qui a pour objectif de montrer que l'Église est celle de tous les peuples. Pour la première fois depuis 1924, aucun Italien ni aucun Européen ne fait partie des nouveaux cardinaux. Nous reviendrons sur la réflexion que le pape a développée sur le sens de l'universalité de l'Église. Les femmes, trop souvent victimes de violences, elles seraient 1 sur 3 dans le monde à avoir été violentées, violées ou agressées. Dimanche est la journée mondiale pour dénoncer ces drames quotidiens. Nous en parlerons avec Abby Bamba. Elle est la présidente de la Guilde des Femmes des Nations Unies. Le livre pour Dieu aujourd'hui est l'ouvrage de Laurent de Cherizet, Le grain de sable et la perle. L'auteur y parle de son projet, celui de lieu de vie et d'humanité pour des personnes cérébro-lésées adultes. Nous nous quitterons avec le commentaire de l'évangile de ce dimanche en compagnie du père Pascal Montavi. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Le Collège Cardinalis a accueilli en son sein 6 nouveaux membres. Lors du 5e consistoire de son pontificat, Benoît XVI a créé ce samedi matin en la basilique Saint-Pierre donc 6 nouveaux cardinaux. Pour la première fois depuis 1924, aucun Européen ni aucun Italien ne faisait partie de cette promotion. Une volonté claire et affichée du pape, comme il l'avait expliqué le 27 octobre dernier. J'ai voulu compléter le consistoire de février dans le contexte de la nouvelle évangélisation en montrant que l'Église et l'Église de tous les peuples parlent dans toutes les langues qu'elle est toujours une Église de Pentecôte. Elle n'est pas l'Église d'un continent mais une Église universelle, avait-il alors commenté. Les 6 nouveaux cardinaux sont donc l'Américain James Michael Harvey, longtemps préfet de la maison pontificale et récemment nommé archiprêtre de la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, sa béatitude Becher Arai, patriarche de l'église maronite, sa béatitude Basilios Clemis Totunkal, patriarche de l'église Syro-Malankar en Inde, John Onayekan, archevêque d'Abuja, Ruben Salazar Gomez, archevêque de Bogota et Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille. Après la lecture de l'évangile, et avant de remettre à chacun des 6 prélats la barrette, l'anneau et une église ou diaconie de Rome, en signe de leur participation à la sollicitude pastorale du pape dans la ville, Benoît XVI a développé une réflexion sur le sens de l'universalité de l'église, à l'image de ses cardinaux venus des 5 continents. Olivier Bonnel.
L'Église est catholique parce que le Christ embrasse toute l'humanité dans sa mission de salut, a souligné le pape. Tandis que la mission de Jésus durant sa vie terrestre était limitée au peuple juif, elle était toutefois orientée dès le début à porter à tous les peuples la lumière de l'Évangile et à faire entrer toutes les nations dans le royaume de Dieu. Dans la Bible, a poursuivi Benoît XVI, Jésus se présente comme fils de David, mais aussi comme fils de l'homme, c'est-à-dire ayant une mission universelle. Cette mission du Christ, a rappelé le pape, est destinée à tout homme et dépasse tout particularisme ethnique, national et religieux. L'esprit de la Pentecôte vient rappeler que la mission de l'Église, dès ses origines, embrasse tout l'univers. Elle n'est pas tant une communauté locale qui s'élargit et se répand lentement, a poursuivi le pape, mais elle est comme un levain qui tend à l'universel, à la totalité, et qui porte en lui-même l'universalité. Dans les Actes des Apôtres, Jésus donne à ses disciples une promesse et une tâche. Il promet qu'ils seront remplis de la puissance de l'Esprit Saint et leur confère la charge d'en témoigner dans le monde entier, dépassant les limites culturelles et religieuses, à l'intérieur desquels ils étaient habitués à penser et à vivre. Le pape a insisté sur cette unité dans la diversité. L'Église, a-t-il dit à Jérusalem, à Antioche ou à Rome, est toujours la même, une et universelle, comme le rappelle le credo de Nicée-Constantinople. Par ce consistoire, Benoît XVI a souligné qu'il désirait mettre en valeur que l'Église est l'Église de tous les peuples, c'est l'Église de la Pentecôte, qui, dans la polyphonie des voix, élève un unique chant harmonieux au Dieu vivant. Le pape a enfin loué le Seigneur pour ses nouveaux cardinaux. Il a rappelé leur sens de la fidélité et de leur attachement au successeur de Pierre. Ces cardinaux fortifient l'Église dans la jeunesse éternelle qu'il lui a donnée, leur a-t-il dit, avant de les inviter à rendre un témoignage courageux au Christ, dans le dynamisme exemplaire de la foi et dans le signe d'un amour oblatif incessant.
Olivier Bonnel, et ce dimanche, Benoît XVI qu'on célébrera en compagnie des 6 nouveaux cardinaux, la messe en la basilique Saint-Pierre en la solennité du Christ roi de l'univers qui clôt le temps ordinaire. Le collège cardinaliste comprend donc maintenant 120 cardinaux électeurs. En tout, les cardinaux sont 211, dont 90 nommés par Benoît XVI depuis le début de son pontificat. Présents parmi la foule de fidèles, de nombreuses personnes venant des pays d'origine, des nouveaux cardinaux et des délégations officielles représentant les autorités politiques. Il y avait ainsi le président libanais Michel Sleiman qui était reçu hier en audience par Benoît XVI, le vice-président des Philippines Jejo Marobine, le président du Parlement indien Palad Joseph Kurien et le sénateur nigérian David Mark. Après cette cérémonie, les cardinaux ont pu recevoir dans les salles du palais apostolique les membres de ces délégations et toutes les personnes qui voulaient les saluer et les féliciter. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de ce consistoire. Pour en savoir plus, une seule adresse, www.radiovaticana.va. Outre la création de 6 nouveaux cardinaux ce samedi, le pape a nommé l'abbé William Crean, nouvel évêque de Cloyne, en Irlande. Il succède à Mgr John Magee, contraint à la démission en mars 2010 à cause des graves erreurs commises dans la gestion des cas d'abus sexuels dans ce petit diocèse irlandais de 160 000 fidèles. En Afrique du Sud, la colline de Marikana où la police a abattu 34 mineurs en grève le 16 août dernier devrait devenir un mémorial. C'est l'avis de l'évêque anglican Joe Seoka qui fut le principal médiateur dans ce conflit social qui a ébranlé tout le pays. Selon la culture et les croyances africaines, c'est un espace sacré maintenant. Tant de vies ont été perdues là-bas et leurs esprits doivent être dans cette situation, a-t-il déclaré alors qu'il témoignait devant la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ces violences. Cette instance devrait ainsi recommander la transformation en mémorial de ce lieu symbolique dans les conclusions qu'elle transmettra début 2013 au président Jacob Zuma, a-t-il estimé. Toutes les 15 minutes, une femme meurt de violences conjugales dans le monde. Une situation qui sera de nouveau rappelée avec force dimanche, comme tous les 25 novembre de chaque année, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Son origine remonte à 1960, lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabal furent assassinées parce qu'elles militaient pour leurs droits. Elles devinrent alors les symboles du combat pour éradiquer ce fléau qu'est la violence sexiste. Le problème de la violence à l'encontre des femmes et des jeunes fille atteint les proportions d'une pandémie. En 2012, au moins une femme sur trois dans le monde a déjà été battue, contrainte à avoir des rapports sexuels ou victime d'autres mauvais traitements, généralement par un proche. Une violence qui peut prendre également d'autres formes. Pour nous en parler, Abi Bamba, elle est la présidente de la Guilde des femmes des Nations Unies.
Les différents types de violences, que ce soit les mariages forcés, c'est un type de violence, que ce soit la non-scolarisation des jeunes filles, que ce soit, le refus de laisser la femme s'émanciper, tout ça là, c'est des formes de violence non dites. La violence ne se limite pas à frapper la femme, mais il y a d'autres violences plus fortes encore mentalement et qui jouent sur le développement de la femme. Moi, je suis sociolinguiste de formation. Si je pense que, par exemple, mon pays est indépendant depuis 50 ans, on n'est pas parvenu à scolariser plus de 30% de la population. Alors, c'est quelque chose vraiment qui appelle, c'est un appel tripal que je peux même lancer pour permettre la scolarisation des jeunes filles. Je pense que plus une femme est scolarisée, moins elle peut être l'objet de violence. Federico Mayor, l'ancien directeur de l'UNESCO, qui dit dans les rapports annuels de l'UNESCO en 1964, et c'est toujours d'actualité, éduquer une femme, c'est éduquer l'humanité tout entière. Et cette citation-là est toujours d'actualité pour moi.
Des propos recueillis par Gabriela Cherazo. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, on ne connaît que trop bien, malheureusement, ce drame des violences faites aux femmes. Un drame dont est témoin le père Uge, un père blanc, poste à Bukavu. Il a publié un document de travail intitulé « Laissez-nous vivre » à propos des violences subies par les femmes et les enfants en contexte de conflits armés, à partir donc de la situation traumatique de l'est de la RDC. Il présente les résultats de la rencontre œcuménique internationale du groupe chrétien de recherche et d'action qui a réuni acteurs de terrain, experts locaux et étrangers cet été à Bukavu. L'originalité de la rencontre et de ses résultats porte sur le choix délibérément pastoral dans son approche et ses propositions. boîte à outils destinée aux acteurs de terrain et aux communautés. Ce document propose des lettres adressées aux différentes catégories de personnes, femmes victimes, enfants, familles, bourreaux, femmes leaders, communautés de quartier ou de consacrés. Des propositions d'action donc pour les communautés, des fiches théologiques d'approfondissement. C'est l'heure maintenant de découvrir le livre pour Dieu. Aujourd'hui, Catherine Aubin nous parle du « Grain de sable et la perle » de Laurent de Cherizé, entrepreneur hors du commun. Comme le grain de sable qui vient se glisser dans une coquille d'huître et blesser sa chair, un accident peut en une seconde plonger notre vie dans la souffrance. Cependant, comme la perle qui naît de cette douleur, il nous est possible de trouver, au cœur même de la fragilité, une richesse inattendue. Ce livre retrace la genèse du projet de l'auteur, c'est-à-dire l'association Simon de Cyrène, qui crée des lieux de vie et d'humanité pour des personnes cérébro-lésées adultes. Des habitations de partage, débarrassées des critères de performance qui envahissent notre société. Catherine Aubin interroge donc Laurent de Cherizé sur son livre et son association.
Laurent de Cherizé, vous venez d'écrire un livre dont le titre est « Le grain de sable et la perle ». Quel est ce grain de sable et quelle est cette perle ?
Alors, c'est un titre qui est un peu une allégorie pour parler de notre condition humaine où on est tous capables de témoigner de grains de sable qu'on a dans nos vies. Notre société nous demande d'être fort, d'être efficace, d'être puissant, d'être rentable, de paraître. Or, nous savons profondément nos propres fragilités. On a une tension douloureuse de cette société qui nous incite à cacher cette fragilité. Parfois, cette fragilité ne peut plus être cachée, ce qui est le cas dans l'association dont je m'occupe, qui s'appelle Simon de Cyrène, pour des personnes dont la vie bascule dans le handicap après un accident de voiture, un accident de sport, un accident vasculaire cérébral. En France, c'est 10 000 personnes chaque année, comme ça, qui, depuis les progrès de la médecine d'urgence, sont gardées en vie. Et ces gens-là, ce sont des personnes qui, lorsqu'ils se réveillent après de longs mois de coma, nous posent la question du sens de la vie. Est-ce que le sens se résume à ce que nous dit notre société postmoderne, faut être efficace, rentable, performant, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond ? Et là, on rejoint profondément l'Évangile dans cette découverte que le secret du sens de la vie, du bonheur de la vie, on le trouve dans cette capacité à rentrer en relation avec l'autre. Et les personnes fragiles nous révèlent que cette relation, elle passe par nos propres fragilités, par nos propres failles. Si l'autre montre ses fragilités et ses failles, ce qui est vrai pour une personne handicapée de manière évidente, il m'invite à ne pas avoir peur de mes propres failles. Et alors, de nos deux fragilités, de nos deux grains de sable, peut jaillir cette perle extraordinaire de la relation qui me fait être humain. Et être humain, c'est cette promesse d'être co-créateur du monde, comme le dit la Genèse, dans cette acceptation de nos fragilités que nous conjuguons et qui fait jaillir la vie.
Et cette co-création, Laurent de Cherizé, aujourd'hui, elle prend forme grâce à votre association Simon de Cyrène. Vous pourriez nous en parler un peu plus ?
Oui, alors Simon de Cyrène fait partie de ces grains de sable, de ces personnes dont la vie a été fauchée, qui se retrouvent avec des handicaps physiques, psychiques, cognitifs, et qui demandent « Pourquoi tu m'as gardé en vie ?» à la société et à chacun de nous. Si c'est uniquement pour être rentable et performant, je ne suis plus capable, il ne fallait pas me garder en vie. Lorsqu'on ouvre ces espaces comme ça de fraternité, ces lieux de vivre ensemble, d'être ensemble, eh bien en fait on rejoint tout le projet qui fonde nos communautés Simon de Cyrène. Ils sont dans la filiation, dans l'expérience des communautés de l'Arche de Jean Vanier, et qui sont des lieux dans lesquels cohabitent, dans des grands appartements partagés, des personnes valides et des personnes handicapées. Et on découvre jour après jour qu'il est bon d'être dans ce vivre ensemble où la relation à l'autre me transforme et me fait goûter au sens profond de la vie. Et c'est en ça qu'on rejoint le fil d'intouchable qui a été lié à l'association Simon de Cyrène. C'est l'histoire de Philippe Pozzo di Borgo, qui a eu un grave accident de sport et qui est le président d'honneur de Simon de Cyrène, qui dans son amitié avec Abdel, Omar Sy dans le film, témoigne que ces alliances de ces deux fragilités différentes, eh bien quelque part ça donne le mode d'emploi du bonheur par la tendresse, la complicité, l'humour et cette relation fidèle dans le quotidien. Mais en fait, si vous voulez, c'est ça qui est très bouleversant, c'est qu'on se rend compte que derrière ça, il y a une vraie anthropologie de la fragilité et puis il y a un vrai projet de société. Si jamais on dit à la personne, quand tu es fragile, tu sors de la société, ça crée une société extrêmement faible, puisqu'on se sait tous fragiles, donc on est tous très inquiets et on n'ose plus prendre le risque de la vie, le risque de l'altérité. Par contre, si jamais la société me permet cette fragilité féconde, à ce moment-là, eh bien, on a une société qui se fortifie de ces relations interpersonnelles d'hommes et de femmes qui n'ont pas peur de la fragilité, qui ont fait une source d'alliance. Et l'histoire même économique de nos sociétés a été maillée par ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont eu l'audace d'accepter leur fragilité. C'est fascinant de voir combien il est vrai, sur le plan spirituel, mais sur le plan social et encore sur le plan économique, combien l'acceptation de la fragilité est féconde et fait passer le grain de sable à la perle. Et ce titre, le grain de sable et de la perle, c'est pour moi une allégorie de cette tension entre la croix et la résurrection, finalement.
Laurent de Cherizet, auteur du grain de sable et la perle, il était interrogé par Catherine Aubin. Place maintenant au commentaire de l'évangile de ce dimanche, solennité du Christ roi de l'univers. Évangile selon saint Jean, chapitre 18, versets 33 à 37, « Je suis roi », un évangile commenté par le père Pascal Montavi.
Nous fêtons ce dimanche Jésus, roi de l'univers. Cette fête, instituée par Pie XI en 1925, affirme la domination du Christ sur toute la création. Pie XI souhaitait ainsi rappeler que toutes les nations ont un seul roi, Jésus. De ce fait, l'engagement politique pour le développement et le bien-être des sociétés doit se faire à l'aune de la royauté de Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous permet de mieux comprendre comment Jésus est roi. Tout d'abord, la royauté de Jésus ne vient pas de ce monde. Jésus est livré aux autorités civiles, mais aucune armée ne se bat pour lui. Il comparaît seul devant Pilate, gouverneur romain qui a le pouvoir de le libérer ou de le condamner. Si la royauté de Jésus ne vient pas de ce monde, elle est cependant dans ce monde. Cette royauté est universelle. Elle appelle tout homme à poser des actes, non pas uniquement en fonction des lois civiles propres au pays où il réside, mais en fonction de sa conscience qui le place devant Dieu. De plus, la royauté de Jésus est éternelle. Elle a présidé à la création, elle s'exerce aujourd'hui par ceux qui obéissent au divin souverain, et elle se dévoilera pleinement aux yeux des hommes à la fin des temps. Une deuxième particularité de la royauté de Jésus est la vérité. Jésus est né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Comme Pilate, l'homme se pose souvent cette question : qu'est-ce que la vérité ? Jésus nous la révèle. La vérité, c'est que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Jésus nous apporte la vérité qui libère le cœur de l'homme. Liberté et vérité vont donc ensemble. Pour connaître et l'une et l'autre, nous sommes appelés à demeurer dans la parole de Jésus et à le suivre comme disciples. Jésus est la vérité et il souhaite que nous soyons, nous aussi, porteurs de cette vérité à laquelle le monde aspire, souvent sans le savoir. Mais comment faire pour être ce disciple qui connaît la vérité? Pour répondre à cette question, voyons ce que Jésus répond à Pilate lorsqu'il lui demande s'il est le roi des Juifs. Jésus dit « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Jésus conduit ainsi chaque homme, juif ou romain, à prendre une décision personnelle, à ne pas laisser sa réponse être modelée par la foule, par les tendances du jour. Nous sommes appelés à poser un premier acte libre et à dire « Oui, Jésus, tu es mon roi. Je ne le dis pas parce que d'autres le pensent, mais parce que moi-même, je le crois. » Chaque homme, tôt ou tard, est amené à répondre à cette question de Jésus. « Me reconnais-tu comme ton roi ? Reconnais-tu que je rends témoignage à la vérité ?» Ceux qui préfèrent se laver les mains et ne pas répondre à cette question continuent d'ignorer la vérité. Ceux qui reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu, le roi des Juifs et de l'univers, reçoivent la liberté et le salut. Ils portent du fruit, l'un 30, l'autre 60, l'autre 100.
C'était le commentaire de l'évangile du père Pascal Montavi que vous pouvez retrouver bien évidemment sur notre site internet www.radiovaticana.va. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.